Bien, donc pour commencer, je vais vous poser une question à laquelle vous m'avez déjà répondu, qui est depuis quand est-ce que vous habitez à Orléans ou plutôt dans l'agglomération?
Donc depuis 1986.
Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a amené à venir vous installer ici?
Oui, c'était une clinique, je suis médecin, hein, donc une clinique venait de s'ouvrir toute neuve dans l'agglomération d'Orléans à Saint-Jean-de-Braye. Donc j'avais l'opportunité de faire une création de clientèle, ce qui est toujours plus intéressant que de faire une reprise. Donc j'ai profité de cette opportunité pour passer de Tours à Orléans.
Et pour vous installer à Orléans, la raison qui fait que vous avez choisi d'habiter là où vous êtes aujourd'hui et non pas dans un autre endroit dans l'agglomération.
La proximité de mon lieu de travail a joué, et puis voilà, j'ai trouvé une maison qui me plaisait bien. Voilà, mais voilà, j'aurais pu habiter un peu ailleurs, un peu plus loin, mais bon, proximité plus une maison qui me plaisait, j'aurais bien été. J'aurais dû. C'était une erreur de ne pas faire ce choix.
Et donc, vous avez déjà répondu quasiment à la question suivante. Est-ce que vous pourriez me dire où vous étiez avant de vous installer à Orléans?
Alors, j'ai fait 6 ans à l'hôpital de Tours,
Au CHU.
au CHU.
Est-ce que vous pourriez me dire ce que faisaient vos parents?
Mon père était kinésithérapeute à Paris et ma mère, mère de famille.
C'est un beau métier. Est-ce que vous pourriez me dire la profession de votre conjoint?
Mon épouse est. Elle dirige un syndicat professionnel qui représente les sociétés HLM dans la région centre.
Maintenant, nous passons à la famille descendante. Vous avez des enfants?
Trois.
Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'ils font.
Donc on en a déjà parlé
C'était hors
pour
micro.
l'enregistrement. Donc j'ai mon aîné qui a 27 ans, a fait ses études à Orléans, puis ensuite il a fait des Sciences Po à Paris. Ensuite il a passé une année à Londres pour faire du droit européen, de la concurrence. Il a travaillé un peu à Bruxelles et aujourd'hui il est dans un cabinet d'affaires international très anglo-saxon à Paris. Mon deuxième a fait ses études à Orléans, pareil, et puis après il a fait une école d'ingénieurs à Nancy. Et actuellement, il est ingénieur dans l'imagerie médicale à General Electric à Buc, à côté de Versailles. Et ma dernière, une fille, poursuit ses études commerciales à Strasbourg. Voilà, elle voulait faire de l'humanitaire, et puis aujourd'hui elle fait plutôt de la finance, ce qu'elle détestait avant de découvrir la matière.
Bien, nous allons revenir un petit peu sur le quartier avant de passer au métier. Est-ce que vous pouvez me dire si vous vous plaisez dans ce quartier, les avantages et les inconvénients que vous y voyez? Il s'agit donc de faire un petit peu un portrait d'Orléans vu par les habitants, enfin Orléans agglomération.
Donc pour le quartier de très proche, je suis plutôt bien. On trouve que c'est un quartier qui a une grande mixité sociale. Et ça nous semble enrichissant. C'est un quartier de maisons individuelles avec des petites venelles. Donc on circule beaucoup à pied et en vélo. Et ça rapproche les habitants. Et encore une fois, ils sont très très différents. Donc ça nous plaît bien, le quartier est bien. La ville de Saint-Jean-de-Braye. On a beaucoup participé à la vie de la ville quand nos enfants étaient plus petits. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus éloigné de la vie communale. On est un peu à cheval géographiquement entre Orléans et Saint-Jean-de-Braye. Donc, on est plus attiré par tout ce qui est commerce et culture par Orléans que par Saint-Jean-de-Braye. Mais bon, comme mon épouse est à la municipalité, maintenant, on s'est de nouveau rapproché de la vie municipale, de la ville de notre ville. Voilà. Pour l'agglomération, bon, l'agglomération, on y vit peu ou pas, à part pour faire des achats divers. Pour la région ou le département, la région, c'est pas la région rêvée de ceux qui ne la connaissent pas. Il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de montagne. Mais bon, pour une vie de famille et une vie de travail telle qu'on a, ça nous convient.
Donc peu d'inconvénients finalement.
Il y en a sûrement, mais si vous voulez, sincèrement, je crois que il faut pas mettre les inconvénients en exergue. Enfin, je veux dire, on raisonne pas comme ça. Je veux dire, on est heureux là où on est, et je pense qu'on serait un long oui, on essaierait de trouver des moyens d'être heureux. Donc, il y a sûrement des inconvénients, mais sincèrement, on les cherche pas, hein, donc on les trouve pas.
Est-ce que vous utilisez des équipements du quartier, équipements sportifs, équipements
Oui.
culturels?
Oui, sportif, on fait du tennis, donc on est sur Orléans, c'est juste à côté de chez nous. Culturel, on est autant sur Saint-Jean-de-Braye, à une compagnie qui s'appelle Clin d'œil, qu'au théâtre d'Orléans. Moi, je fais du chant sur Saint-Jean-de-Braye. Bon, donc oui, la réponse est clairement oui.
Et des équipements de service, là nous précisons d'habitude santé, mais c'est un petit peu mal tombé ici. Je présume que là il n'y a pas de. De toute façon, on va reparler ensuite des autres activités. Simplement, une question sur les commerces du quartier. Vous faites vos courses dans le quartier, près.
On fait nos courses de tout ce qui est non périssable au supermarché à côté. Et pour tout ce qui est légumes, fruits, c'est le plus souvent le marché d'Orléans le samedi matin.
Celui du quai,
Celui du quai.
qui empêche la circulation.
Oui, mais bon, pour le bien-être de ceux qui l'utilisent, donc pas reprochable quand même.
Non, de la même manière, lorsque vous avez des travaux à faire, vous adressez plutôt aux artisans du quartier ou.
Là, je suis obligé de réfléchir. Pas forcément, non. Pas forcément. Je veux dire, pas forcément. Je veux dire, on a refait une cuisine il y a quelques années. On n'a pas trouvé quelqu'un qui nous plaisait sur Orléans. Donc, on a eu le snobisme d'aller sur Paris. On en était content. En général, j'essaye de faire travailler des artisans locaux s'ils me plaisent, mais j'hésite pas à aller plus loin si je trouve pas.
Bien, nous allons. Ça, c'était le thème logement en ville. On va passer au deuxième thème qui s'intitule travail. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi consiste votre métier?
Donc moi je suis médecin gastro-entérologue, donc je m'occupe des maladies de l'appareil digestif, c'est-à-dire l'ensemble du tube digestif du début jusqu'à la fin et ses annexes, c'est-à-dire foie, vésicule, pancréas, etc. Je fais beaucoup de cancérologie, c'est quand même ma spécialité. Voilà, j'ai une activité de consultation classique, tout le monde connaît, et une activité technique au bloc opératoire, tout ce qui est endoscopie, interventionnelle ou diagnostic.
Est-ce que vous pourriez me dire comment vous êtes arrivé à cette. Quel a été votre parcours universitaire pour arriver à ce métier?
Le choix s'est fait pas si précocement que ça. Je n'avais pas d'idée préconçue en commençant mes études. J'ai fait plusieurs stages en tant qu'étudiant en médecine. Donc j'ai choisi la gastro. J'ai d'abord hésité beaucoup entre la gastro-entérologie. J'ai eu trois choix. J'hésitais entre ce qu'on appelle la médecine interne, c'est-à-dire c'est la médecine spécialisée, mais de toutes les maladies générales. Donc c'est très compliqué, pas beaucoup d'ouverture dans le libéral, encore moins dans le public. Donc j'ai rapidement abandonné, pourtant ça me passionnait. J'ai failli faire obstétricien, ça me plaisait bien. Et j'ai choisi gastro-entérologie, parce que finalement c'est relativement proche de la médecine interne. On est obligé de considérer les individus dans leur globalité et non pas que dans leur organe. Et c'est donc en faisant des stages d'étudiants que j'ai vu quelle était cette spécialité. Et finalement, ça a été mon choix définitif.
Et vous avez fait vos études à
À
l'université de
Paris.
Tours, à Paris. Paris combien?
Paris 11, c'était Bichat.
Ah oui. Et votre internat, vous l'avez fait à Paris aussi,
Non,
non?
c'était fait à Tours.
À Tours. Vous m'avez dit tout à l'heure que votre père était kinésithérapeute. C'est la médecine, c'est une tradition de famille
Non.
ou non? Ça vous est venu par vous-même.
Bon, c'est toujours difficile de dire ce genre de... C'est toujours difficile d'affirmer ça. Je me suis souvent posé la question, mais je ne sais pas. Je pense que mon père devait être fier de son fils. On est toujours à un moment de sa vie où on a envie de faire plaisir à ses parents. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je me suis souvent posé la question et je n'ai pas de réponse. Je ne me la pose plus maintenant.
Dans votre fratrie, si vous avez, ça,
Oui, j'ai une
oui.
sœur qui est infirmière aussi.
Ah, ça aggrave le cas quand même. Bien, on va passer au quotidien. Donc, je vous rappelle que notre enquête s'intéresse beaucoup au fait du comment les gens vivent dans la ville et comment ils s'y comportent. Donc, est-ce que vous pourriez me décrire une journée type de travail pour vous? À quoi ça ressemble, du matin au soir, en gros?
Je peux pas répondre à cette question comme ça aussi ouverte. Je veux dire que il y a plusieurs journées types. Donc j'ai deux types de journées. Je veux dire, j'ai soit une journée en consultation, soit une journée au bloc opératoire, en sachant que chaque partie peut interférer avec l'autre. Donc une journée de consultation, c'est relativement classique. Ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une consultation. C'est un colloque singulier avec une personne, plus ou moins son accompagnant, et puis le médecin, avec un interrogatoire, un examen, une discussion, une réflexion, une information. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un colloque singulier, très humain, avec beaucoup d'échanges verbaux et non verbaux. Et puis la deuxième journée, c'est au bloc opératoire, là c'est très technique. Donc là les gens ils dorment en général, donc il y a moins de participation du patient. Par contre, il y a plus d'esprit de corps professionnel. Voilà, donc quand je suis au bloc opératoire, on voit une dizaine de patients, 10-12 patients par jour. On fait un examen, on fait un geste, on va les voir après, on va voir la famille, etc. Donc c'est vraiment 2 journées complètement différentes. Voilà. Alors, il y a d'autres journées aussi hein, où on est plus en réunion. Où on fait... Mais voilà, des journées vraiment professionnelles, c'est ça, c'est ces deux volets.
À la fois, on peut à peu près voir à quoi ça ressemble. Puis il y a aussi une vraie part d'ignorance. Et puis il y a aussi ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un témoignage en 2010 de à quoi ressemblait le quotidien des Français. Juste pour avoir comme ça une première idée, pour vous, une journée, ça commence à quelle heure au travail, par exemple?
Ça commence entre 8 et 9.
Et
Ça
ça,
dépend des
c'est.
jours. Et ça se termine entre 6 et 9, entre 18h et 21h. Hier soir, je suis rentré, il était 21h.
Et pour manger à midi, par exemple, vous faites comment?
Pendant presque 10 ans, on prenait pas le temps de manger. Je mangeais une banane dans l'ascenseur. Et puis maintenant, ça m'amuse moins, donc je prends une demi-heure pour manger. On a un restaurant du personnel, enfin, un restaurant
Oui,
d'entreprise,
oui.
sur place. Et donc on arrive à manger, on mange soit avec les collègues, soit avec les infirmières, soit avec les secrétaires. Et je prends une demi-heure pour manger.
Et le restaurant est dans la clinique
Oui.
elle-même, oui. Vous allez au travail et vous en rentrez en voiture, je présume.
Pas toujours,
Pas
parfois je
toujours.
prends mon vélo.
Ah. Peut-être juste pour boucler là-dessus, parce que c'est quand même pas un métier indifférent, on peut dire quand même les choses comme ça, je crois que vous l'avez déjà un peu dit. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît dans ce métier? Déplaît en tout cas, les aspects les moins
Oui,
plaisants, je sais
c'est
pas.
une question, mais c'est une question intéressante, ça, parce que je veux dire, c'est vrai, on se pose toujours des questions tous. De temps en temps, on est content, on est fier, et puis de temps en temps, on en a un peu assez. Moi, je trouve que c'est un métier quand même qui même si il y a des côtés qui me lassent, parce que j'ai quand même 25 ans, 30 ans maintenant, où on est quand même très très utile, très actif. Je veux dire. Il y a un nombre de moments dans la journée où d'ailleurs On voit les personnes qui sont devant nous sont tellement suspendues à ce qu'on pense et ce qu'on va dire que c'est une puissance, une force qui est énorme. Donc on a une force très importante sur les individus. Par contre, on a peu, et c'est un peu ça qui me déçoit peut-être, on a peu de rôle dans l'organisation de la société, dans le fonctionnement de la société. On a un rôle important sur le plan individuel, ce qui est important, surtout quand c'est soi. Mais sur le fonctionnement de la société, on est relativement peu acteur. Je ne sais pas si je suis clair.
Je pense que je comprends. C'est un rapport plus individuel que collectif. C'est une vraie question naïve, celle-là, en revanche. Vous êtes dans une clinique. Hein. Dans le fonctionnement interne de la clinique, par exemple, est-ce que vous avez un pouvoir décisionnel? Est-ce qu'il y a des structures de concertation? Comment ça fonctionne en interne dans les processus de décision, par exemple sur la gestion collective, sur les emplois,
Ah,
sur...
alors non, je veux dire, les médecins ont perdu beaucoup de pouvoir dans les établissements, aussi bien privés que publics, parce qu'ils en ont perdu le contrôle d'actionnaire. On a un pouvoir de décision, malgré tout, réel, pas sur le personnel. Le personnel, il appartient à la direction de la clinique, donc les médecins n'ont rien à dire sur l'engagement ou même sur la qualité du personnel, même si on s'en prive pas quand même. Donc on a par contre un rôle. Vous voyez, par exemple, là, il va y avoir une nouvelle clinique, une réunification des cliniques au nord d'Orléans. Moi, je suis très actif dans le projet. On a défini le programme architectural, l'architecture, le fonctionnement, etc. Donc on ne s'occupe pas des financements et autres, mais on a un rôle pour définir ce que doit être la médecine et la chirurgie dans les 20 ans qui viennent. Ça, c'est passionnant. Et on peut avoir un rôle, mais le rôle, ce pouvoir, on le prend, hein, on ne vous le donne pas, mais comme tous les pouvoirs. Donc, je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais je considère qu'effectivement, les médecins peuvent avoir un pouvoir dans un établissement s'ils le veulent.
En termes de fonctionnement, donc vous avez parlé de secrétaire, d'infirmière, vous avez un service à vous, vous avez des personnes sous votre autorité, bon, même si vous n'avez pas de pouvoir
Ah, moi,
financier
j'ai
ou autre.
engagé à titre personnel, j'ai deux secrétaires et deux infirmières, mais à mi-temps, chacune a un gros mi-temps, donc je suis bien entouré, oui. Donc là, c'est à titre personnel, c'est moi leur employeur,
À l'intérieur de
direct,
la clinique.
à l'intérieur de la clinique, parce que la clinique, c'est une société. Les médecins restent des médecins libéraux, et c'est considéré comme une mini-entreprise. Donc chacun peut employer le personnel qu'il souhaite, voilà. Il le paye sur son résultat, enfin sur son chiffre d'affaires.
Mais à part ça, vous avez quand même du personnel de la clinique
Alors, il y a du personnel, oui, bien sûr,
ou...
vous avez raison. Donc, ouais, c'est compliqué, parce que je veux dire que dans l'activité de consultation, là, c'est complètement libéral. Donc là, on a nos secrétaires et la clinique n'intervient pas, c'est-à-dire même un bâtiment qui est juridiquement et sur le plan fonctionnement est complètement séparé. Par contre, à l'intérieur, dans un bloc opératoire, par exemple, il y a du personnel qui appartient à la clinique et du personnel qui appartient aux praticiens. C'est un peu compliqué. Mais à l'intérieur de l'établissement, c'est essentiellement le personnel de la clinique, infirmière, aide-soignante, penseuse, etc. Voilà.
C'est le même principe que dans les CHU où il y a une partie qui est ce qu'on appelle les lits des professeurs et puis une partie qui est publique, non? C'est pas le
Alors
même
non, pas du
principe?
tout.
Non, pas du
Je
tout.
veux dire que dans les CHU, dans tous les hôpitaux, CHU ou non CHU, les praticiens peuvent avoir une activité qu'ils appellent privée,
Oui.
mais ils utilisent le personnel de l'hôpital. Et ils ont un reversement sur les honoraires privés à l'hôpital pour utilisation à titre privé du personnel de l'établissement. Donc ils ne sont pas responsables, ils ne peuvent pas virer une secrétaire ou une infirmière si elle n'est pas compétente. Ils n'ont pas le pouvoir sur le personnel.
Je vois à peu près. Et pour terminer sur l'hôpital, est-ce que vous avez, enfin, un des gros problèmes de tous ces métiers, je pense, c'est quand même le problème de la formation et de l'auto-formation. Vous pouvez m'en dire un mot de comment vous faites pour rester au niveau
Oui,
de...
d'accord. Donc là, il y a plusieurs biais. Donc j'utilise je l'utilise. Donc il y a les journaux, même si aujourd'hui Internet a beaucoup supplé les journaux. Il y a les congrès, donc il y a des congrès locaux qui sont parfois de bonne qualité. On fait venir des intervenants de France entière, ça dépasse pas la France. Il y a des congrès nationaux, européens et internationaux. Donc moi j'ai été aux États-Unis, j'y vais plus depuis quelques années, mais j'étais aux États-Unis tous les ans à la grand-messe de ma spécialité au niveau mondial. Il y a des congrès européens. Moi, j'étais récemment à Rome. Enfin, je veux dire, bon, j'essaie d'aller une fois par an dans un congrès international, deux fois par an dans un congrès national, et puis trois, quatre fois par an dans les congrès locaux. Plus les revues. Et puis, on est bien informé aussi par des petites revues fax. Donc, c'est des petits points d'information très courts qu'on reçoit deux, trois fois par semaine. Et qu'on peut lire très vite. Donc ça marche bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Les revues.
Vous gardez des liens avec des laboratoires de recherche dans le domaine des...
Alors moi, je ne le fais plus depuis 4-5 ans. Je faisais des études cliniques sur des laboratoires qui nous confiaient des études pour évaluer un nouveau médicament ou une nouvelle manière de l'utiliser. Mais ça prend tellement de temps que là, j'ai arrêté. Mais avec l'université, non, on n'a pas de lien. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de lien entre les libéraux qui voient beaucoup de patients et qui ont une énorme expérience, probablement plus importante et différente que les expériences des médecins hospitaliers, et qui n'ont absolument pas de rapport avec les jeunes. C'est un vrai souci, ça.
Vous avez des jeunes collègues que vous formez, par
Et
exemple?
non?
Non?
On voit de temps en temps des élèves infirmières ou des internes qui passent comme ça, mais je veux dire, c'est pas officialisé et c'est pas validant.
Parce qu'il y a
Et
quand même
donc.
un savoir-faire qui se
Ah oui,
perd.
complètement. Donc ça, c'est vraiment un dommage pour les jeunes et c'est dommage pour les anciens parce que malgré tout, apprendre aux jeunes, c'est quand même un bon moyen de se mettre les idées au clair. Donc ça, je trouve ça très regrettable.
Bon, on va laisser le travail, on va passer au thème des loisirs. La question c'est qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Comment occupez-vous votre temps?
Donc, je travaille beaucoup déjà,
Oui.
c'est ce que tout le monde doit dire.
Non, non, je vous rassure.
Donc, moi, j'aime bien. Donc, je fais du chant. Je fais du chant de toutes sortes, lyrique ou du chant Donc, ça me prend un peu de temps. Je fais du tennis deux fois par semaine. Je fais du bricolage, j'aime bien bricoler. Je fais des choses chez moi. Je fais pas mal voilà, de bois, de soudure. Enfin, donc, du jardin, j'aime pas trop le jardin, mais j'en fais un peu de temps en temps. Et puis voilà, je lis. La télévision, pas trop. Bon, enfin, quand même, peut-être une soirée par semaine ou une soirée tous les 15 jours, on doit faire une soirée télé. Écoutez, c'est beaucoup déjà, hein.
C'est pas mal. Est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, si, ce que vous avez fait le week-end dernier ou un autre week-end, peu importe, c'est juste. Parce que là, ce sont plutôt des loisirs de semaine, j'ai envie de dire.
Alors, vendredi soir, on a été avec ma fille. Vous voulez tout savoir, c'est incroyable.
On veut savoir comment vivre. Enfin, on veut
Bon,
savoir.
d'accord, allez.
C'est un
Non,
témoignage
je veux
déjà.
dire, à partir du moment où tout est honnête. Donc, vendredi soir dernier, on était avec ma fille qui venait de Strasbourg et qu'on voit pas souvent. On était au restaurant, on était au lift. Ensuite,
C'est le restaurant, le lift.
le lift, oui, au-dessus du cinéma, je
Ah
crois
oui,
que.
d'accord, je vois ce que c'est.
Le samedi matin, on a dû faire le marché. Et puis j'étais faire une course pour. Vous voulez tout savoir, vraiment? Incroyable. Ça, c'est pour la linguistique, hein.
Oui, c'est pour la langue.
Oui, c'est pour le. J'étais faire une course, j'étais chercher du sable. Ensuite, le samedi soir, on était au cinéma et on a mangé au restaurant avec des amis. Cinéma, puis restaurant. Le week-end, dimanche, on a fait une grande balade à Aubigny, donc c'est en Sologne.
C'est Aubigny-sur-Mer?
Aubigny-sur-Mer, oui. Et le dimanche après-midi, ma foi, je crois qu'on n'a pas fait grand-chose. On a dû faire un peu de jardinage, un peu de lecture. Voilà. Puis le soir, on a lu les journaux qui étaient en retard de la semaine. Voilà.
Merci pour tous ces renseignements. je vais juste mentionner quelques endroits, certains vous les avez déjà nommés, comme les cinémas. Est-ce qu'il vous arrive d'aller, par exemple, est-ce que vous êtes allé au Zénith à Orléans récemment, voir quelque chose, un spectacle?
Ça fait très longtemps le Zénith. Hein. J'ai été voir Johnny Hallyday il y a 4 ou 5 ans. Mais voilà, donc le Zénith, pas trop, non.
L'Astrolabe,
Non, jamais.
non. Le théâtre
Le
d'Orléans.
théâtre, on est abonné au cadeau et on y va, voilà, on a un abonnement, on y va 5 ou 6 fois par an, au cadeau ou à la scène nationale. Donc là, on y va assez régulièrement.
Les musées, muséums d'Orléans.
Oh, écoutez, là, non.
Non.
On connaît, on y a été,
Oui.
mais j'ai pas été depuis une éternité.
La médiathèque, bibliothèque de quartier ou.
On n'y va plus. On est pourtant des grands lecteurs. C'est vrai qu'on les achète plutôt, on se les fait prêter. On a fait partie d'un groupe de lecture pendant plusieurs années où on faisait des tournantes de lecture. Là, on en achète plus qu'on en emprunte. On n'emprunte plus la bibliothèque depuis quelques années, c'est vrai.
Et vous m'avez dit que vous faisiez du chant. Vous allez au concert
Un peu.
Oui.
Un peu, mais je préfère participer que contempler.
Si, comme toujours, si une question vous embête, vous laissez de côté, mais je peux vous demander dans quel cadre vous pratiquez le chant ou c'est un chœur, c'est un.
Non,
Non.
je voulais pas faire une chorale, je voulais
Non.
faire une, je voulais chanter pour moi. Enfin, donc on est plusieurs, donc je prends des cours 2 fois par mois. De temps en temps, on fait des stages. L'année dernière, on a fait une petite représentation, c'est un mot un peu prétentieux, à la fête de la musique. Et puis voilà, donc ça reste accessoire, hein, mais bon, je veux dire, c'est avec une chanteuse professionnelle, c'est tout à fait. Ça, je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a 3-4 ans, et je trouve ça très plaisant.
C'est de la musique classique
Non, alors écoutez, moi j'aime
moderne.
bien le. Moi j'ai une voix de baryton. Donc je peux chanter Mozart, même si je ne suis pas forcément au point. Donc je fais du lyrique, j'aime bien le lyrique. J'aime bien les opéras italiens de tout siècle confondu. Puis je fais aussi de la variété, hein, je chante Polnareff, parce que ça m'amuse, Piaf, voilà.
Avec une voix de baryton.
Absolument.
Ah bon?
Des chansons d'amour, ça se chante avec n'importe quelle voix.
Donc toujours dans cette idée d'une géographie d'Orléans, est-ce que pourriez me dire quels sont les espaces verts, les lieux de promenade que vous fréquentez, enfin quand je dis Orléans, c'est l'agglomération, les bords de la Loire,
On
les
fait beaucoup
parcs.
on fait souvent les bords de Loire, à pied ou à vélo. On va souvent à Charbonnières. Et puis on fait des promenades à pied. Alors là, je veux dire, on les a écumées presque toutes, presque tous les chemins pédestres, aussi bien à l'est, plus à l'est qu'à l'ouest, au sud, au nord. Donc ça, on fait relativement souvent 2, 3, 4 heures de marche le week-end, soit avec ma femme, tous les deux, soit avec des amis. C'est quelque chose que. Donc voilà, donc là vraiment je connais tous les chemins à 50 km, tous les chemins.
Oui,
Attention,
oui, oui,
je veux dire, les chemins les plus classiques, on les a tous faits aussi bien en Sologne qu'en forêt d'Orléans.
Et de façon plus proche, le parc floral, l'île Charlemagne.
Le Charlemagne, 2, 3 fois par an. Le parc floral, oh ça arrive. Mais alors c'est vraiment une fois tous les 4-5 ans, mais ça arrive, ouais, si on choisit bien sa saison. Enfin, le parc floral, c'est bien pour aller voir les fleurs, pas pour marcher, quoi.
Les sorties avec le week-end, on a déjà largement traité la question. Donc, vous fréquentez des restaurants, des bars de manière privilégiée à Orléans, des lieux de convivialité assez fréquemment.
Pas tant que ça, non. Non, non, pas tant que ça. Je veux dire, on va au restaurant de temps en temps, mais bon, pas tant que ça. Des bars, non.
Donc, vous êtes un vrai Orléanais. La ville a cette réputation d'être une ville très peu vivante la nuit, notamment.
Non, mais bon, je veux dire, je veux dire, il y a un âge pour fréquenter les bars, mais je veux dire, sincèrement, je ne me vois pas au Paxton à minuit, un samedi soir. Je trouve que ça correspond pas à mon mode de vie. Je veux dire, c'est pas. Je l'ai fait, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt social ou sociétal. Je vois pas l'intérêt de ça. Donc,
Pour le sport, ben, nous en avons parlé. Si vous pouvez me dire un mot de plus du tennis, c'est dans le cadre d'un club ou c'est
Non,
simplement
c'est amical.
amical?
Enfin, je fais partie d'un club. Je suis inscrit à un club. Mais je n'ai pas de compétition. Donc, c'est avec des amis ou de temps en temps quand je cherche un partenaire. Mais bon, plutôt amical.
Vous m'avez déjà dit un mot de la télévision que vous regardez une fois tous les 15 jours. Soirée. Est-ce que vous écoutez des radios? Est-ce que vous avez des chaînes de télé préférées?
Alors en télévision, moi je regarde beaucoup la chaîne Assemblée nationale, que je trouve parfaite pour moi. Je regarde le sport de temps en temps. France 2, de temps en temps. Bon, puis voilà, et puis le reste. Mais en général, à part pour le sport, quand vraiment on a envie de se vider la tête, je veux dire, je regarde le programme et puis j'ouvre direct la chaîne qui m'intéresse sur le programme. Je suis un peu utilisateur de la zappette. L'autre question, c'était
La radio.
la radio. Alors, radio, pas tellement. Dans la voiture, j'écoute France Info, comme ça je suis au courant de tout, un peu le matin, un peu le soir en revenant de la maison. Et j'ai l'impression de tout savoir. Et puis, on lit le journal. Ouais.
En termes d'ordinateur, je présume que vous en avez un. Est-ce que vous utilisez Internet? Ce que je présume oui, mais plutôt est-ce qu'il y a des sites qui vous intéressent plus, sur lesquels vous allez surfer, comme on dit?
C'est tellement large comme question, là, c'est difficile.
En gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'utilisent les personnes sur Internet? Est-ce qu'ils utilisent les sites des journaux? Est-ce qu'ils utilisent les sites type Facebook et compagnie? Est-ce qu'ils utilisent les sites professionnels?
Alors moi, j'utilise un peu les sites professionnels, parce que c'est vrai que je fais plus les sites professionnels chez moi qu'au bureau. Quand j'ai terminé ma journée, j'ai pas envie de rester 1 heure devant l'ordinateur. On utilise beaucoup la messagerie quand même. Bon. Beaucoup, de plus en plus la messagerie. C'est clair que maintenant, je regarde la messagerie tous les jours. Les sites, je fais de temps en temps les sites des petites annonces quand je cherche des machines à acheter, des machines de bricolage, des choses comme ça. Mais bon, je veux dire, c'est épisodique. Les journaux, non. La musique, un peu. Maintenant, je vais un peu sur Deezer ou sur YouTube pour écouter des gens qui chantent et qui font des interprétations. Ça, je le fais un peu de temps en temps. Et puis, je pense sans doute en fonction de ce que j'ai besoin au moment T. Mais j'ai pas de site que je vais visiter régulièrement, je crois pas.
Vous n'avez pas de home page.
Non. Mais c'est pas dans Facebook.
Le
Très
plus en
dangereux,
fait.
Facebook. Hein. C'est très intéressant, mais moi j'en parle avec mes enfants et je leur dis faites attention parce que je veux dire Facebook, il y a une traçabilité qui peut être pas éternelle, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on peut effectivement retrouver peut-être 20 ans plus tard hein, quelque chose qu'on a fait et puis dont on n'est pas fier. Et bon, donc Facebook, non, je ne fais pas.
On passe à la lecture, on a compris les thèmes des loisirs toujours. Vous m'avez dit que vous étiez un lecteur. Vous pourriez me dire un petit peu ce que vous lisez, quel type d'ouvrage, plutôt historique, plutôt
Ah non, ça je lis
littéraire?
jamais de livre historique, quasiment jamais d'historique, il faut que ça soit romancé. Je lis que des romans. Que des romans. Je viens de terminer le club des incorrigibles optimistes, d'un certain Guenantia, qui est très bien. Je viens d'attaquer, là il y a quelques jours, le livre d'Isabelle Allende, il s'appelle La maison aux esprits, je crois. Donc c'est que du roman. Alors c'est toujours un roman, c'est pas un roman complètement inventé, style Agatha Christie, mais on lit des romans de toute nationalité. Toute nationalité. Mais il faut que ça soit romancé dans un contexte qui soit un peu réel quand même, pas complet. Mais moi, m'est arrivé de lire de la science-fiction, pareil. Mais dire un mot historique sur la vie des maréchaux d'Empire, tout ça, on s'en fait pas.
Les vacances, vous les prenez à Saint-Jean-de-Bray?
Pas souvent, non.
Pas souvent. Pour vous, en gros, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Vous faites plutôt du voyage, plutôt résidence secondaire, plutôt.
Un peu les deux, hein. Je veux dire, Un peu les deux. On a une grande maison familiale dans le Poitou, donc là on essaie d'y aller relativement régulièrement. C'est quand même un creuset familial et puis tout le monde s'y réunit, toute la famille s'y réunit, donc ça c'est bien. On essaye de faire ça une semaine par an, parfois deux. Et puis on fait un voyage annuel, oui. Là on revient là il n'y a même pas un mois, du désert algérien. Et puis voilà, donc ça peut être. Souvent, on a la chance de pouvoir faire un ou deux voyages par an, d'une semaine.
Dans le désert algérien, c'est les voyages organisés, c'est ça,
Oh, c'est
avec
voyage organisé, on ne peut pas faire autrement, c'est impossible.
oui, il
Vous
me
rentrez
semblait.
pas dans l'Algérie si vous n'êtes pas, si vous
Escorté.
n'êtes pas escorté et puis inscrit à une agence de voyage. Hein, vous ne rentrez pas.
Et c'était pour marcher dans le. Alors, on va maintenant parler de la façon dont les Orléanais, au sens large du terme, y compris les Abrésiens, voient Orléans. Est-ce que vous allez aux fêtes de Jeanne d'Arc?
Oh, j'y suis allé, hein. Mais sincèrement, je trouve que c'est soporifique comme fête. Et pourtant, soi-disant, les Orléanais, ils tiennent beaucoup. Moi, je n'en ai encore jamais vu qui tenait bec et ongles. Mais paraît-il que c'est la réalité. Non, je pense que si on pouvait, ça pouvait, si la municipalité pouvait faire l'économie et faire cette fête une fois tous les 2 3 ans, moi, ça serait mon souhait. Hein. J'y ai déjà été, mais sincèrement, c'est vrai que ça m'intéresse peu, quoi. Il faut l'avoir vu une fois.
On va regarder quelques manifestations organisées sur Orléans, toujours dans la même idée de savoir qui participe finalement. Est-ce que vous allez au festival de jazz qui
Oui.
va, oui, chaque année
Presque. Presque chaque année.
Vous avez un
Non.
abonnement, non
Bon, on peut pas s'abonner à ça, si?
Non, simplement il y a des. Enfin, ce que je voulais dire par abonnement, c'est on peut prendre tous les spectacles.
Ah non, 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 on choisit, on y va une fois, oh mon Dieu, au moins une fois en tout cas.
La création de Monsieur le Maire, les fêtes de Loire, vous y êtes allé?
Oui.
Oui. La fête foraine,
Ah ça non.
non. Le marché de Noël.
On est quasiment obligé d'y passer, ça dure un mois, quasiment obligé d'y passer, mais vraiment j'y passe, hein. Je passe, je m'arrête peu, je m'arrête pas en fait. Je veux dire, c'est vrai, c'est pour acheter une tartiflette ou un saucisson. J'y passe, mais je me déplace pas pour ça en tout cas.
Et les salons qui sont organisés au parc des expositions, c'est.
Oh, c'est exceptionnel.
On va parler des équipements d'Orléans. Vous utilisez le tram, les bus?
Quasiment jamais.
Est-ce que vous avez un avis sur ce qui a été fait en termes de, on va dire, d'embellissement, c'est-à-dire la reprise du vieux centre, les bords de Loire?
Ah oui, c'est bien, c'est évident. Hein. Je trouve ça toujours un petit peu dommage que les municipalités en général s'occupent plus du centre de leur ville que des quartiers périphériques. Mais c'est vrai que c'est plutôt une réussite. C'est clairement une réussite, même, c'est sûr. Hein. Sur le plan de l'organisation sociale. Je veux dire, le centre-ville est devenu un endroit où il fait bon y flâner, alors qu'avant, il n'y avait rien. Non, ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, les jeunes y viennent. Non, c'est une bonne chose. C'est vrai comme ça dans beaucoup de villes de France, quand même. Hein. Mais non, c'est une bonne chose. Hein.
En termes de commerce, de manière générale, est-ce que vous trouvez qu'on trouve à Orléans suffisamment de, enfin, ce dont on a besoin, en quantité suffisante?
Oh oui, je n'ai pas besoin de grand-chose, moi, pour être heureux.
On passe à la question sur la politique en général. Est-ce que vous vous intéressez aux municipales, aux élections municipales, pardon,
Oui.
oui. À Saint-Jean-de-Bray?
Oui, à Orléans, parce que c'est quand même maintenant, vous savez, le pouvoir va bientôt devenir, bientôt aller à l'agglo, et donc ça reste les municipalités qui envoient leurs représentants à l'agglo, donc il faut s'intéresser aux municipalités pour s'intéresser à l'agglo.
Vous avez déjà participé aux activités municipales sur Saint-Jean-de-Bray,
Ma
par
femme
exemple?
est conseillère municipale, est adjointe à la municipalité, donc j'ai été contrainte de m'y intéresser.
Ah bon? Donc je verrai avec madame pour
Oui.
discuter le détail. On passe aux médias locaux. Vous lisez La République du Centre?
Oh, le parcours.
vous la parcourez. Vous regardez la télévision locale, Orléans TV, jamais. Vous écoutez les radios locales,
jamais.
Au moins là, ça va vite. Je présume que vous avez entendu parler de ce qu'on avait appelé la rumeur d'Orléans dans les années 70.
L'enlèvement des jeunes filles dans les arrière-cafés. Oui, j'ai entendu parler. C'est une vraie rumeur ou une vraie rumeur d'une fausse information, non?
C'était une pure rumeur.
Non fondée.
Non fondée. Oui. Mais vous n'avez pas réentendu parler. On essaie de la tracer
depuis
40 ans.
Quand je suis arrivé, on en parlait, oui, tout à fait. Pas 40 ans, 40 ans peut-être, je ne sais pas. Depuis 10 ans, j'en ai jamais entendu parler.
Alors, on va maintenant essayer de situer Orléans dans son contexte. Est-ce qu'à votre avis, la proximité de Paris est une bonne chose pour Orléans?
Oui, clairement.
Ah bon? Vous pourriez... C'est pas un avis très courant, hein, vous savez.
Est-ce que la proximité de Paris est une bonne... Oui, je pense que pour Orléans, oui, c'est une chance. Pour moi, c'est complètement clair. Je veux dire, Orléans, c'est pour la banlieue de Paris encore, ni l'inverse. Je trouve qu'Orléans est bien placé par rapport à Paris, à plein de points de vue. Hein. Il vaut mieux habiter à Orléans qu'à Vierzon ou à Châteauroux, ça c'est clair et net pour moi. Ça circule bien, on est à une heure de Paris, il y a des activités industrielles qui viennent chez nous, il y a des activités de bureaux qui viennent chez nous. Je crois que Orléans et Paris vont se rejoindre peu à peu. Oui, je crois que dans les décennies à venir, Orléans, le président de Paris est un atout. Pour moi, c'est clair. Il y a des gens qui viennent se faire, moi je suis médecin, des gens qui viennent se faire soigner à Orléans parce qu'ils disent les médecins sont plus disponibles, moins chers et tout aussi compétents. Et ils ont raison, alors que Paris, c'est la vie plus difficile.
Peut-être pour compléter cette question, vous allez souvent à Paris?
Ah oui. J'ai ma famille à Paris déjà, et puis moi j'y vais dans les congrès, j'y vais dans les réunions professionnelles, j'y vais pour le syndicat, je suis parti du syndicat des médecins. J'y vais souvent, hein, souvent, oui, plusieurs fois par mois. Hein.
En train?
En train, ça dépend ce que je vais faire, mais en train souvent, ou en voiture, ça dépend. Hein.
Puisque vous me disiez que vous aviez fait votre internat à Tours, il y a évidemment la question sur Orléans et Tours. Si vous aviez à comparer les deux villes, qu'est-ce que vous en diriez?
Ça, c'est difficile comme question. Je ne sais pas répondre là. Ça dépend tellement de la vie qu'on a, que si c'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, une vie de travail et de famille, qu'on soit à Orléans ou à Tours, ça doit être assez proche. Une vie d'étudiant, c'est sûr que les étudiants sont plus heureux à Tours qu'à Orléans, c'est pas évident. Pour ce qui est commerce, c'est pareil, pour ce qui est culture, c'est proche. Pour ce qui est la beauté de la ville, je trouve qu'Orléans s'est amélioré. J'essaie de réfléchir pour la qualité de vie à tout point de vue. C'est vrai que la région de Tours, géographiquement, elle est quand même plus agréable, plus vallonnée, mais on peut profiter de la Sologne et de la forêt d'Orléans, c'est pas mal non plus. Je ne sais pas répondre à la question.
Vous avez été heureux dans les deux villes.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut tout faire pour être heureux là où on est et avec ce qu'on a. Je veux dire, c'est quand même la clé du bonheur.
C'est vrai. Mais citer longue vie après Orléans, c'est quand même très dur.
Comment?
Vous avez cité longue vie après Orléans comme terme de comparaison.
Longue vie, d'accord. Longue vie, ça c'est vraiment le summum. Mais peut-être qu'on peut y être heureux.
Enfin, dernière question sur nos amis orléanais proprement dit. Est-ce que vous avez entendu dire des choses sur le caractère des Orléanais, la réputation des Orléanais?
Oh oui, on dit ça de tous les... de partout. Nous, on s'est fait des amis sans difficulté. Quand on est arrivé sur Orléans, alors qu'on était vraiment été parachuté, on ne connaissait pas grand monde. J'ai l'impression qu'on dit ça de toutes les villes. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une ville qu'on disait particulièrement accueillante. Vous voyez, on disait, il faut aller à tel endroit, on est accueilli à bras ouverts. On n'est jamais accueilli à bras ouverts, nulle part. Est-ce que les vrais Orléanais de souche sont particulièrement mal accueillants des primo-arrivants, je ne sais pas, mais je dirais, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des Orléanais qui sont accueillants, même si ce n'est pas des Orléanais de souche. Donc je crois qu'on peut se faire des amis partout, encore une fois. C'est la même réponse que tout à l'heure.
Ouais, moi, je suis comme vous, hein, j'arrive dans cette ville. Moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est à quel point il y a finalement peu d'Orléanais. C'est-à-dire
Oui,
que
tout à fait.
quasiment autour de moi, je ne vois que des noms
Bien
d'Orléanais
sûr.
de souche. Ce qui n'est pas le cas forcément dans toutes les villes, là, pour le coup, qui est une particularité.
Peut-être.
On a une dernière série de questions qui concerne un thème de réflexivité linguistique. Donc, évidemment, c'est notre métier. Vous répondez comme vous le. Santé, évidemment, comme d'habitude. Est-ce que selon vous, il y a une façon de parler propre à Orléans qui permettrait de reconnaître un Orléanais dans sa manière de parler?
Ah, ça c'est une amusante quoi, comme question. Là, faudrait y réfléchir. La manière de faire des phrases, je dirais non, mais c'est vrai qu'il y a quand même des expressions locales, peut-être. Il y a des petites expressions, je veux dire, on dit pas un crayon de papier, Orléans, on dit un crayon de bois, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a plein de petites expressions comme ça qui effectivement sont peut-être plus en tout cas moi j'ai jamais entendu ailleurs, mais qui sont pas forcément typiques d'Orléans. Est-ce qu'il y a des manières de faire, une manière globale de faire des phrases? Je dirais qu'il n'y en a pas. Enfin moi je l'ai pas senti. Alors peut-être des petites expressions locales, du presque pas du patois, mais des petites expressions locales de rien à voir, oui sûrement. Faudrait que je réfléchisse là, un peu, comme ça à brûle-pourpoint. J'ai du mal à vous en citer beaucoup, mais effectivement, de temps en temps, on dit ça, y a que là où j'ai entendu ça. Mais bon, c'est des petites phrases, des petits mots plutôt.
Est-ce que vous trouvez qu'on parle bien à Orléans?
Savez, je viens de Tours, parce que j'ai fait quand même 8 ans à Tours, 6-8 ans à Tours. On disait que Tours c'était le creuset du beau français, du français bien parlé. J'ai pas vu de différence. Non, mais je crois qu'il y a un tel melting pot en ce moment dans nos pays, dans notre monde, que je ne sais pas si j'ai l'impression que tout se mélange maintenant, qu'on est tous pareils.
Même les jeunes?
Ben oui, ce langage jeune, il est quasiment international maintenant. Donc je ne pense pas qu'il y ait un langage jeune orléanais, vous croyez?
Non, ma question est plus sur est-ce que vous trouvez en gros que les jeunes parlent comme nous, quoi. On va dire ça comme ça.
Ah!
C'est pas spécial cette fois Orléans, c'est plus affaire de génération.
Ah oui, d'accord, c'est très différent là.
Oui.
La question est différente. Est-ce que les jeunes parlent? Non, ils ne parlent pas comme nous, mais bon, on parlait pas comme nos parents. Moi, je ne parle pas comme mes parents. Non, ils ne parlent pas tout à fait comme nous, c'est sûr. Mais j'arrive encore à comprendre mes enfants quand même, même s'ils ont des expressions à eux, qui sont souvent amusantes d'ailleurs. Voilà. Donc, les enfants ne parlent pas comme nous, c'est sûr. Ils disent pas je vais là-bas, ils disent je vais là-haut. Bon, puis un jour je leur ai fait remarquer, ils m'ont dit, mais si tu vas là-bas, c'est pas plus en bas ni plus en haut. Bon, nous on dit là-haut, bon c'est comme ça. On arrive à les comprendre encore.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent ou qui vous amusent dans la façon de parler de certaines personnes?
Ah oui, quand même. Oui, quand même. Je veux dire, en particulier les jeunes, là, je veux dire, de temps en temps, ils ont un langage qui est tellement exagéré, on a l'impression que ça manque de finesse dans le parler et que tout est tellement exagéré qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est trop, ce qui est pas assez, ce qui est. Voilà. Donc ça, oui, je trouve qu'il y a un, il y a une, il y a un, il y a une échelle de valeur qui, je trouve, n'est pas bien exprimé par le parler. Ça, c'est clair. Ils ont jamais un peu faim ou beaucoup faim. Ils ont toujours trop faim. C'est dommage. Parce que on peut avoir un peu faim, beaucoup faim, ou atrocement faim, ou mourir de faim. Et ça, donc voilà. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. C'était ça la question ou pas?
Oui, même si je reconnais le gastro-entérologue dans la
Non,
réponse à la
mais
fin.
j'aurais pu prendre, il y a probablement
Non,
dans les
je
sentiments,
plaisante.
les vrais sentiments, pareil.
C'était la question, c'est oui, pour vous agacer, bien sûr, et des choses qui vous amuseraient dans la façon de parler de certaines personnes.
Ah oui, de temps en temps, les jeunes. Alors ça, c'est impossible de reproduire. De temps en temps, je m'essaye pour d'essayer de parler, pas comme mes enfants, parce que mes enfants parlent bien, j'ai de la chance, je sais pas. Mais de temps en temps, il y a des jeunes comme ça qui ont un parler avec un peu comme le parler africain, très imagé, très enlevé, etc. Et c'est très difficile d'imiter. Et certains le font d'une manière extraordinaire. C'est vraiment comme le rap parlé. De temps en temps, c'est très vrai. Et on ne peut pas imiter ça. On est incapable d'imiter ça. De temps en temps, ça m'énerve, de temps en temps, ça m'amuse. Puis de temps en temps, je trouve ça intéressant et je suis incapable de faire la même chose. Alors que de temps en temps, ils sont des phrases qui sont vraies, même si c'est exagéré, parfois c'est tellement vrai que. Alors, et on est tellement incapable, moi je suis tellement incapable de faire la même chose qu'eux, que de temps en temps, j'aimerais bien. Donc ça m'énerve par ne pas pouvoir y arriver, même en essayant.
Vous avez parlé vous-même de melting pot, on a déjà évoqué le fait du mélange des populations. Est-ce que vous pourriez me dire, tel que vous les percevez bien sûr, les autres langues que vous avez l'impression d'entendre à Orléans, à part le français bien sûr?
C'est difficile. Moi, dans mon métier, en dehors du métier, on entend un petit peu d'arabe dialectique, je pense. Dans la rue. Moi, dans mon métier, je vois beaucoup de Turcs qui parlent turc et qui parlent pas le français. Et ça, c'est dans la génération après 50. L'anglais quasiment pas, à part les gens en vacances, mais je veux dire, si on peut entendre un peu d'anglais. Espagnol très peu, allemand. Non, je trouve que par rapport à Paris, quand on est à Paris, effectivement, là on entend de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand de partout tout le temps. À Orléans même, on entend un peu de turc, un peu d'arabe. Je dirais c'est tout.
Portugais, non? Non.
Pas tant que ça, je trouve. Non, les Portugais, ils baragouinent le français, ils s'en débrouillent. Alors que certains Turcs ne parlent pas le français, donc ils sont obligés de se débrouiller avec leur turc. On est obligé d'avoir des interprètes. Mais il se trouve que les Portugais, ils sont souvent mal adaptés sur le plan linguistique, mais voilà, ils arrivent avec miam miam dodo à dire ce qu'ils veulent dire et on y arrive, quoi.
Vous m'avez dit avant que nous ne commencions l'entretien que vous aviez une bonne pratique de l'anglais et une moindre mais néanmoins réelle de l'allemand. Vous le pratiquez aujourd'hui l'anglais concrètement vous en avez l'usage?
Un peu quand même, un peu quand même. Hein. D'abord, je lis, je suis obligé de lire, parce que j'ai beaucoup de littérature professionnelle en anglais chez nous. Et je le parle un petit peu, mais je parle quand je vais dans les congrès anglophones. Voilà, donc les congrès européens, même à Bruxelles, même à Paris, sont parfois en anglais, ou les congrès aux États-Unis sont bien sûr en anglais. Donc je le parle un peu, je parle un peu. Je le lis plus, et l'entends plus que ne le parle, mais j'arrive à me débrouiller. Encore une fois, je le perds un peu.
C'est de l'anglais professionnel beaucoup.
Oh, du tout, non, je suis capable de demander mon chemin et
Oui.
puis demander une chambre d'hôtel. Mais c'est plus de l'anglais professionnel, mais l'anglais professionnel, il est simple.
Oui, il est international, lui.
Voilà.
Eh bien, il nous reste la cerise sur le gâteau, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pourriez me donner la recette de l'omelette?
Donc vous la voulez simple ou compliquée? Ou je fais ce que je veux?
Vous faites comme vous voulez.
Non, je vais la faire simple alors, on va gagner du temps. Recette de l'omelette pour une personne? Une
Comme vous
personne que
voulez.
je veux. Alors on va prendre une grande famille de trois enfants.
Par exemple.
Donc pour cinq personnes, je sors 6 œufs de mon frigo, je prends un récipient profond, je casse mes œufs, moi je mets une lichette de lait. Poivre et sel, je mélange tout ça, et ensuite je fais chauffer une poêle sur l'énergie que je possède. Je mets une noix de margarine, rarement de beurre, et une fois que la poêle est chaude, je verse mes œufs. Alors là, j'ai deux méthodes, soit je couvre pas, c'est fondamentalement important. Hein. Que si vous ne couvrez pas, vous êtes obligé de remuer, ce qui fait que ça devient plus des œufs brouillés qu'une omelette. Et si vous couvrez, vous ne voyez pas ce qui se passe et vous avez du mal à... J'avais du mal à l'arrêter. Voilà, ensuite, une fois que c'est baveux, parce que moi j'aime bien baveuse, il faut la retourner. Alors c'est tout un sport, là, parce qu'il faut la retourner d'une manière élégante. Donc je prends un plat plat Avec la poêle, je fais glisser la moitié de mon omelette, et ensuite je retourne ma poêle pour faire comme un chausson aux pommes et servir ça avec le sourire.
Écoutez, je vous remercie.